rentrer dans le vif, puisque pour les nouvelles du Congo, eh bien, on fera ça mardi soir, avec un texte qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 3 et verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. La version Semeur traduit ce texte ainsi. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Amen. Cette pensée est une pensée que nous retrouvons aussi dans le Nouveau Testament, développée par Paul, notamment dans Romains 8, 28. Vous connaissez sûrement ce texte où il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, où Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous le savez sûrement, Dieu n'a pas attendu que nous arrivions sur terre pour commencer à se préoccuper de nous. Il y a parfois des gens qui pensent que Dieu est celui qui est parfois pris au dépourvu, un peu comme dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève pêchent et que maintenant ils sont séparés de Dieu. Alors ils pensent que Dieu à ce moment-là se gratte la tête et se dit « bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Non, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il sait depuis le commencement exactement comment va se dérouler son plan avec les hommes et au-delà même de cette création. Parce que même avant le début de cette création, Dieu avait déjà imaginé l'œuvre de la croix. N'est-ce pas? L'agneau immolé était déjà dans la pensée de Dieu avant même que le premier atome de cette création ne soit mis en œuvre. Et dans cette dimension-là, lorsque le texte de l'Ecclésiaste nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, c'est pour, en quelque sorte, nous aider, nous qui avons du mal à saisir justement le commencement et la fin de toutes choses, de nous dire, eh bien, fais confiance. Si toi-même tu ne peux pas comprendre comment Dieu va faire les choses depuis le début jusqu'à la fin, eh bien, toi tu peux faire confiance simplement à sa sagesse, à sa grandeur, à sa puissance, à son amour. Parce que s'il a déjà commencé dès le départ à prévoir tout le déroulement, alors il est sûr, comme dit le texte, que lorsque le temps sera écoulé, et c'est souvent notre problème, on a du mal à attendre, n'est-ce pas? Pour nous, le temps est compté, nous sommes limités sur cette terre dans le temps, et lorsque nous pensons à des choses, nous avons l'impression que, eh bien, il faut un peu hâter le temps, il faudrait que nous-mêmes, on se préoccupe de faire ce qu'on voudrait que Dieu fasse. Il y a des exemples dans la Bible qui nous le montrent. Abraham, par exemple, qui a reçu la promesse de Dieu qu'un jour, il aurait un fils de Sarah, son épouse, et qu'à travers lui, eh bien, Dieu bénirait toutes les nations. Mais comme le temps passait, n'est-ce pas, 10, 20 ans, eh bien, à un moment donné, Abraham et Sarah ont pensé que pour que la volonté de Dieu se fasse, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse, il fallait y mettre un petit coup de pouce soi-même. Et c'est comme cela que Sarah a proposé à Abraham, son mari, sa servante Agar. Et quand l'enfant est arrivé, Ismaël, eh bien, ils pensaient tous les deux que voilà, la promesse de Dieu allait maintenant pouvoir s'accomplir grâce à leur sagesse, grâce à leur intelligence, grâce à leurs bras. Et puis Dieu leur a révélé plus tard que ce n'était pas Ismaël qui serait l'enfant. mais que ce serait vraiment l'enfant qui viendrait de Sarah. Et alors que Abraham avait presque 100 ans et Sarah avait presque 90 ans, Dieu maintenant s'est rappelé à Abraham au travers de la visite des anges. Et un de ces anges a dit à Abraham, « L'année prochaine, Sarah aura un fils. » C'était tellement soudain, étonnant, impossible, incroyable, puisque la Bible nous précise que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants, bien sûr. Déjà, même à cette époque, c'était comme cela aussi. Et Abraham le savait très bien, puisque Paul dira dans l'Épître aux Romains que, espérant contre toute espérance, Abraham a cru à la promesse, et c'est ainsi que ce qui était impossible est devenu possible, grâce à Dieu, qui fait toutes choses belles en son temps, mais aussi grâce à la foi, à la confiance qu'Abraham et Sarah ont mis finalement dans la promesse de Dieu. Les choses qui paraissaient impossibles à réaliser, parce que déjà peut-être dans leur cœur ils disaient « mais de toute façon c'est trop tard, c'est trop tard ». Oui, il y a la promesse de Dieu, mais maintenant c'est trop tard. Si Dieu avait fait ces choses avant, oui, mais là maintenant c'est trop tard. Et vous savez, il y a aussi parfois des chrétiens comme cela qui pensent que Dieu est en retard. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Rappelez-vous, dans un village à Béthanie, il y avait une famille que Jésus aimait bien visiter. C'était la famille de Lazare, de Marthe et Marie, les deux sœurs. Et un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, assez loin de là, il reçoit un messager qui leur dit « Viens vite !» de la part donc de Marthe et Marie, qui s'adresse à Jésus en disant « Viens vite parce que celui que tu aimes, Lazare, est gravement malade, près de mourir. » Et le texte nous dit que Jésus resta là encore deux jours. Lorsque Jésus va se mettre en route, enfin, pour aller trouver Lazare, il dira à ses disciples « Allons parce que Lazare dort et je vais le réveiller. » Et les disciples se disaient « S'il dort, ça va, il n'y a rien de grave. » Mais en fait, Jésus parlait de la mort de Lazare. Et lorsqu'il arrive dans le village de Marthe et Marie, les deux sœurs vont successivement aller à la rencontre de Jésus. Et une des deux sœurs va dire à Jésus, « Ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez ? En quelque sorte, elle lui dit à ce moment-là, « C'est dommage que tu sois en retard. » Parce que si tu étais venu quelques jours avant, alors tout était possible. Et voyez, parfois on est un peu comme cela aussi. On pense que Dieu est en retard. Or, si vous lisez bien la parole de Dieu, vous verrez que Dieu lui-même rend témoignage dans sa parole, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9, où il dit « Dieu n'est pas en retard ». Et j'aimerais te dire ce matin, de la part de Dieu, si jamais tu pensais que Dieu avait du retard dans l'accomplissement de ses promesses, sache bien ceci et garde-le dans ton cœur jusqu'à la fin de tes jours ici-bas. Dieu n'est jamais en retard. Et ce jour-là, d'ailleurs, Jésus va le montrer, parce que, après donc certains événements que je passe rapidement, Jésus va se faire conduire par Marthe au tombeau de Lazare. Il dira « Ouvrez la pierre », puisque c'était un tombeau qui était fait dans les rochers, et on déposait le corps ainsi. Ils ont roulé la pierre et à ce moment-là, Jésus a commencé à rendre grâce à son Père. Avant même l'accomplissement, n'est-ce pas, du miracle, il rend grâce à son Père de l'avoir exaucé. Ce qui nous montre que même si Jésus n'a pas bougé au moment où il a appris la maladie de Lazare, Jésus a consulté son Père à son sujet. Il a prié pour lui et il a reçu une réponse de son Père lui disant quoi ? Eh bien, lui disant, tu vas rester là, tu vas attendre quelques jours, ensuite tu iras dans le village et tu ressusciteras Lazare afin que mon nom soit glorifié. Et Jésus s'est soumis à ce timing divin. Vous avez vu dans le texte que nous avons lu au départ, Dieu dit ceci, qu'il fait toutes choses belles, mais en son temps. Et le problème souvent pour nous, c'est de savoir, mais quand est le temps de Dieu? Il y a un temps de Dieu pour chaque chose, nous dit aussi l'Ecclésiaste. Et lorsque Dieu va créer même notre univers visible, il nous est dit que Dieu commence la création par un soir. Il y en a qui pensent que les jours de la création qui sont décrits dans Genèse chapitre 1er sont des jours de 24 heures, ce qui n'a aucun sens, puisque au départ même de la création, il n'y a pas encore les astres qui nous permettent de calculer, n'est-ce pas, les jours et les heures comme nous le calculons. Donc, ces laps de temps n'ont rien à voir avec les jours de 24 heures. Mais la Bible nous dit que quand Dieu commence la création, c'est un soir. Ça veut dire, eh bien, pour l'instant, on ne voit rien. Hein? Quand vous arrivez dans le soir, c'est là où tout s'estompe, il fait nuit, on n'y voit plus grand-chose. Et c'est ainsi dans l'œuvre de Dieu, quand Dieu commence quelque chose, pour l'instant, l'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. L'intelligence de l'homme est obscurcie, ne peut pas percer les desseins de l'Éternel. Et nous le voyons dans le cadre de la résurrection de Lazare, même les disciples de Jésus ne comprenaient pas l'attitude de Jésus. Jusqu'à ce que Lazare sorte, c'est à ce moment-là seulement qu'ils vont comprendre qu'est-ce que Dieu avait en tête de faire. Lorsqu'on regarde même la vie des disciples avec Jésus pendant 3 ans et demi, les disciples ne comprenaient pas jusque la résurrection de Jésus qu'est-ce que Jésus était venu faire sur terre. Ça, c'est assez étonnant de voir que quand Jésus leur parlait qu'il devait mourir, la Bible nous dit que ce langage, ils ne le comprenaient pas. Et alors encore plus quand il disait qu'il devra ressusciter. Parce que effectivement, si déjà vous ne concevez pas qu'il faut que le Fils de Dieu meure, alors pourquoi faut-il ressusciter? Hein? Et ça a été jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un schéma tout préparé déjà dans leur tête de ce que devait être l'œuvre de Dieu. Pour eux, l'œuvre de Dieu, c'était que le Messie, arrivant en Israël, rétablisse le royaume d'Israël, comme au temps de David et de Salomon, et le rétablisse dans toutes ses dimensions de cette époque. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre que le Fils de Dieu puisse être même saisi par les soldats et être jugé, être mis à mort. C'était impensable pour eux. C'était tellement fort d'ailleurs que vous savez que leur principale discussion lorsqu'ils étaient en chemin et que Jésus peut-être était un peu devant ou derrière, ils discutaient entre qui sera le premier ministre dans la royauté d'Israël. Et il y en a même certains qui ont fait fonctionner, n'est-ce pas, les relations, puisque la maman, hein, des deux disciples est venue voir Jésus et a intercédé pour que les deux fils de cette maman soient l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus dans son royaume. Évidemment, Jésus a été compatissant. Il savait qu'il ne pouvait pas comprendre à ce moment-là encore le plan de Dieu. Mais regardez l'attitude des disciples lorsque tout à coup, il voit Jésus saisi, être jugé, traîné, être mis à mort. La Bible nous dit qu'ils vont tous fuir. Même Pierre qui avait dit à Jésus, n'est-ce pas, s'il le faut même, je suis prêt à mourir pour toi. Et vous avez vu comment finalement ça se termine. Pierre qui arrive de loin, suivant Jésus qui est emmené dans la cour du souverain sacrificateur. Et la Bible nous dit que, alors qu'il veut entrer dans la cour, parce qu'il y a Jean qui connaît bien sûr quelques personnes de cet environnement, Pierre se fait interpeller par une servante et dit: mais toi aussi tu es avec Jésus. Et Pierre dit: non, non, pas du tout, tu te trompes. Et il le fait par 3 fois, et la troisième fois, il est dit que il va jurer avec imprécation sur lui-même. Ça veut dire que si je mens, hein, eh bien qu'il me soit fait ceci et là et cela. Donc il n'hésite pas même à jurer qu'il n'a jamais connu Jésus et qu'il n'est pas de ses disciples. Et il s'en retourne pleurant sur ce qu'il vient de vivre, parce qu'il s'est trompé sur tout. Même Judas, qui a été l'instrument du diable pour amener à terme le plan de Dieu, même Judas s'est trompé lui aussi sur ce qui allait arriver. La preuve, c'est que quand maintenant il réalise son geste, que par lui, Jésus va être finalement vraiment mis à mort, qu'est-ce qu'il fait ? Il rapporte l'argent qu'il a tant convoité, pour lequel il n'a pas hésité à trahir son maître. Il le rapporte à ceux qui lui ont donné et ensuite il va se suicider. Il se suicide pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris, c'est vrai au départ, l'amour de Dieu pour lui. Parce que finalement, vous savez, entre ce que Judas fait, livrer Jésus, et ce que Pierre fait, hein, c'est difficile de dire qui a fait le pire. Mais il y en a un qui se suicide parce qu'il ne croit pas à l'amour de Dieu, au plan que Dieu va manifester au travers de son fils. Et l'autre, Pierre, qui va simplement croire que malgré ce qu'il a fait, Dieu peut lui pardonner. Et c'est comme cela que Pierre va s'en sortir. Mais en fait, tous ces hommes et ces femmes ne comprennent pas le plan de Dieu. Chacun est pris dans l'action, il est dans l'histoire du plan de Dieu qui se déroule, mais ils ne comprennent pas à quel moment il se situe à ce moment-là. Mais regardez Jésus, lui. Jésus est tout à fait conscient, lui, exactement quelle est l'heure qu'il est en train de vivre. À chaque fois que ce n'est pas l'heure, Jésus fuit, que ce soit les honneurs qu'on veut lui donner. À un moment donné, il est dit que la foule voulait le porter en triomphe, mais ce n'était pas le temps. S'il avait accepté d'être porté en triomphe comme roi, alors il était en train de précipiter l'histoire. Et votre histoire ne serait pas alors ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il fallait que le Fils de Dieu meure sur cette croix comme un maudit, pour que nous puissions nous aussi entrer dans le plan de Dieu et être sauvés de nos péchés, être réconciliés avec notre Créateur et pouvoir entrer aussi dans l'éternité que Dieu a aussi préparée d'avance. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur terre, mais l'œuvre de Dieu, ça va jusque dans ce renouvellement de toutes choses que la Bible nous annonce succinctement, où Dieu changera le ciel et la terre actuelle et créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et une nouvelle dimension, l'éternité. Ça nous dépasse. Même si on essaye de sonder l'éternité, pour nous, ça nous dépasse, parce que nous savons que nous avons un commencement et nous aurons une fin. D'accord ? Mais si je suis de ceux qui croient en Dieu, qui croient dans la sagesse de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu, alors je vais lui faire confiance. Et je vais attendre. Ce matin, il y a eu un don spirituel qui disait à quelqu'un, ne te précipite pas, mais attends le temps de Dieu. Souvent, c'est le problème que nous avons. On finit par perdre patience. Et alors, eh bien, on veut absolument faire quelque chose. Alors, parfois, on arrive à accomplir ce qu'on voulait, mais il y a un petit goût amer, un peu comme Abraham avec l'histoire d'Ismaël. On va traîner un peu cette histoire jusqu'à la fin de nos vies. Abraham, je suis sûr, n'est-ce pas, a toujours pensé à ce moment avec Sarah où ils sont entrés dans cette petite magouille pour avoir Ismaël. Et finalement, quand Dieu lui dit « mais ce ne sera pas lui », alors il pose la question à Dieu « mais alors Ismaël, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Et là, on voit la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu qui dit « mais Ismaël, je vais lui aussi préparer quelque chose ». Finalement, ça nous montre que même lorsque les hommes font des erreurs, ces erreurs n'échappent pas à Dieu. Et il a déjà aussi la capacité de changer le mal en bien. Dieu se sert de toutes choses sur cette terre. Et vous savez, celui qui prétend comprendre tout ce que Dieu fait, il n'a rien compris. C'est ce que nous dit le texte. Même si Dieu a implanté au tréfond de l'être humain le sens de l'éternité, mais malgré cela, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Et lorsque vous lisez Hébreux 11 et aussi Romains 11, 33, vous voyez que même un homme érudit comme Paul, qui pouvait se targuer d'avoir une connaissance parfaite de tout l'Ancien Testament et de la compréhension profonde de ces textes. Mais lui-même, il pouvait dire dans Romains 11, 33, ceci. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et on peut dire avec lui, Amen. Oui, il y a un temps de Dieu pour chaque chose dans la création et aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a des moments où nous recevons de la part de Dieu des promesses, des appels à nous préparer à quelque chose. Mais comme je le dis souvent aux étudiants que nous enseignons à l'Institut à Brazzaville, il y a une différence entre l'appel de Dieu pour nous préparer à vivre quelque chose dans le plan de Dieu et le temps où Dieu va maintenant vous dire « Vas-y ». Je vais vous donner un exemple. En 1992, alors que j'étais dans mon temps personnel devant Dieu, dans mon bureau, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et pendant toute la journée, cette pensée a été imprimée à mon cœur par le Saint-Esprit. C'est au Congo, Brazzaville, que je t'enverrai. Et j'ai ouvert un atlas, j'ai regardé où était le Congo, Brazzaville, parce que à l'époque, je ne savais pas. J'ai observé la carte, j'ai regardé les villes, les régions, les fleuves, tout ce qu'il y avait sur cette carte. Et pendant que je regardais, le Saint-Esprit continuait à me dire « C'est là que tu iras servir le Seigneur ». L'année suivante, nous avons fait un séminaire, un des premiers séminaires que l'Action missionnaire de France a organisé. Et à la suite de ce séminaire, Dieu m'a convaincu que je devais maintenant présenter ma candidature missionnaire, ce que j'ai fait. Et nous avons attendu la réponse de l'Action missionnaire qui est venue 4 mois plus tard. On était là maintenant, je crois, en novembre, novembre 1993. Et la réponse n'était pas, eh bien, chouette, hein, on attendait que vous pour aller au Congo. Non. La réponse, c'est, ben, pour le Congo, pour l'instant, c'est fermé. On ne peut pas vous envoyer là-bas. Par contre, on a un besoin au Mali. Et quand j'ai regardé la carte, le Mali, ce n'était pas vraiment le Congo. D'abord parce que c'est à l'Afrique de l'Ouest, alors que le Congo, c'est en Afrique centrale. Et puis aussi parce qu'au Mali, il y a 90% de musulmans. Il fait très chaud. Il ne pleut pas pendant 9 mois de l'année. Et parfois, au nord du Mali, quand il pleut, c'est des traces d'eau seulement qu'il y a. Alors que le Congo, c'est très arrosé. Il y a 9 mois de pluie dans l'année. Il y a les 2/3 du pays, c'est de la forêt équatoriale, alors qu'au Mali, comme disait un autre missionnaire, on est souvent à la plage, mais on ne voit jamais la mer. Parce qu'il y a beaucoup de sable, hein, il y a beaucoup de désert, et il fait très chaud. Mais lorsqu'on s'est placé devant le Seigneur, Dieu nous a vraiment montré, à ce moment-là, à travers la paix qu'il nous donnait, qu'il fallait passer d'abord par le Mali. On ne comprenait pas, mais on s'est soumis. Et Dieu nous a confirmé d'une manière extraordinaire ce dessein qu'il avait pour nous. Et pendant 10 ans, finalement, nous sommes restés travailler dans ce pays très chaud, où ma femme a beaucoup souffert, parce que quand il fait 45 à l'ombre pendant plusieurs mois, et moi-même, j'avais parfois, quand j'allais dans le nord, à Gao ou à Kaï, des températures de 52 degrés à l'ombre. Hein, et encore, il paraît qu'à ce niveau-là, le thermomètre il commence un peu à ne plus donner réellement la température. Donc on suppose que ça dépassait même les 52 parfois. C'était terrible, mais c'était le temps pour nous d'être là-bas. Et vous savez, lorsque Dieu aussi nous ouvre une porte pour faire quelque chose, alors il ne faut pas attendre parce que la porte peut aussi vite se refermer. Et par exemple, ce que nous avons fait dans ce pays au Mali pendant 10 ans, nous ne pourrions plus le faire maintenant à cette époque-ci. À cause du contexte dans lequel vous connaissez se trouve le pays, ça serait plus possible d'ouvrir une église à Tombouctou, d'ouvrir une église à Gao comme nous l'avons fait. C'était le temps. Nous y étions. Et parce que nous avons répondu présent, eh bien, le Seigneur a pu se servir de nous, faire le travail. Et lorsque, au bout des 10 ans, Dieu m'a convaincu que le temps était pour moi fini au Mali, je posais la question au Seigneur. J'ai dit, mais où est-ce qu'on va maintenant? Est-ce qu'on va au Congo? Ou est-ce qu'il faut retourner en France, reprendre une église, se réhabituer à la France? Parce que vous savez, s'il y a un décalage quand vous arrivez en Afrique, mais quand vous avez passé 10 ans en Afrique et que vous revenez en France, eh bien, il y a une année aussi de réadaptation nécessaire. Et là, donc, le Seigneur m'a mis sur le cœur vraiment qu'il fallait rentrer en France. Et ça s'est confirmé, la porte s'est ouverte et nous sommes revenus en France pendant 7 ans. 7 ans, j'ai travaillé à nouveau dans une région en France, côté de Nantes. Et là, eh bien, je pensais même plus au Congo dans cette période, puisque Dieu mettait devant moi des choses nouvelles à faire. J'ai été aumônier de prison à la prison de Nantes. J'ai travaillé comme aumônier de prison, donc, dans cette prison. Et pour moi, c'était comme un champ missionnaire. C'était quelque chose aussi d'extraordinaire. Tellement d'expériences que j'ai pu faire dans ce contexte. Et puis, à un comité missionnaire, à l'époque j'étais le trésorier de l'action missionnaire, à un comité missionnaire, le pasteur Christophe Ansmanger, revenant du Congo, Brazzaville, fait un compte-rendu de sa mission là-bas. Et tout à coup, il transmet un message des pasteurs, des responsables des Assemblées de Dieu du Congo, qui disait à peu près ceci: mais depuis le temps qu'on vous demande un missionnaire, comment se fait-il que jusqu'ici personne ne soit venu? Est-ce que vous avez peur de venir au Congo? Il faut dire juste rapidement que au Congo-Brazzaville, les missionnaires français qui étaient restés là-bas avaient quitté le pays dans les années 70 à cause du marxisme. Et depuis, aucun missionnaire français n'était revenu donc travailler, s'installer vraiment dans le pays. Donc c'était une demande qui était là, constamment relayée, mais jusqu'alors, il n'y avait pas le feu vert de Dieu. Et ce jour-là, quand j'entends ce message que transmet le frère Christophe, je ressens dans mon cœur comme la voix de Dieu qui réveille l'appel et qui me dit « mais maintenant c'est le temps ». Ce fameux temps de Dieu, vous savez, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce leitmotiv m'a accompagné pendant les mois qui ont suivi, parce que je me suis rendu avec Christophe rencontrer les frères là-bas. Et chaque fois que nous parlions avec eux, c'est revenu. Oui, oui, c'est le temps de Dieu pour vous. On vous attend. Bon, alors, on a fait nos valises à nouveau, on a vendu tout ce qu'on avait, on a donné, et puis on est reparti donc avec Catherine. Cette fois-ci, on était tous les deux, et on est arrivé à Brazzaville avec nos valises. On n'avait pas encore de voiture ni de maison, mais on était là. Et c'était le temps de Dieu, vraiment. Parce que ce que nous avons pu faire pendant ces 7 années, eh bien, on n'aurait pas pu le faire avant. Et je ne sais pas ce que sera l'avenir de ce pays. Mais je sais que c'est vraiment le temps où il fallait aller là-bas. Et on bénit Dieu pour ces choses. D'ailleurs, oui, mais ça c'est formidable, c'est pour l'œuvre missionnaire. Oui, oui. Mais je vais vous dire, même dans les petits détails, il y a un temps de Dieu. Par exemple, il y a des années de cela, même des décennies maintenant, hein, mon épouse me disait toujours « Ah, j'aimerais bien aller en Camargue. » Elle est attirée, vous savez, les taureaux, les chevaux, les flamants roses. Moi, je ne savais pas qu'il y avait aussi la bicyclette, mais bon, hier, elle l'a appris. Notre sœur Sylvia nous a emmenés, elle a fait 30 km là, de VTT. Et je disais, ben oui, le jour où on aura l'occasion, où ce sera le moment, on ira. Alors je vous raconte pas comment on est arrivé chez Sylviane, on se connaissait pas. Hein. On s'est découvert lorsque je suis arrivé à sa porte, j'ai sonné la petite cloche là, et qu'elle est venue nous ouvrir, et c'est à partir de là qu'on a fait connaissance. Et on bénit Dieu parce que quand on sait attendre le temps de Dieu, Dieu fait toutes choses belles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on n'a pas à forcer les portes, on n'a pas à se décarcasser ou à se mettre la pression pour faire les choses, mais Dieu vous ouvre la porte. Et ça, c'est formidable, vous savez, quand Dieu vous ouvre la porte. Alors, je sais que vous avez vécu sûrement ici, hein, les uns et les autres, déjà des expériences comme cela. Mais c'est bon de se rappeler, parce que parfois, le monde dans lequel nous vivons, et quand je dis le monde, même parfois l'Église, le système, vous savez, de l'Église fait que on peut ressentir comme une certaine pression. Hein, tu dois être productif. Hein, c'est ce que le monde fait tout le temps. Ceux qui ne sont pas productifs, ils sont virés. Hein. Dans une boîte, c'est comme ça maintenant. Si vous n'acceptez pas plus d'heures, plus de pression, plus de responsabilités, alors on vous met dans le placard. Et c'est dangereux quand notre vie chrétienne devient aussi comme ça sous pression, où on se sent comme obligé de faire quelque chose, voyez, alors que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais que Dieu, oui, peut-être nous prépare pour ce faire. La Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour chacun de nous, qu'il nous demandera d'accomplir. Mais vous remarquez dans le texte, Paul ne dit pas quand. Il faudra le faire. Et voyez-vous, l'appel que j'avais reçu pour le Congo, c'était en 92. Et finalement, je suis parti au Congo en 2011. Ça veut dire, il y a 19 ans qui se sont écoulés. Le désir que ma femme avait d'aller voir la Camargue, ça remonte peut-être même davantage encore. Mais c'est cette année que nous avons cette opportunité. Et on bénit Dieu pour l'accueil que notre sœur Sylviane nous a préparé, concocté. C'est merveilleux, vous savez, quand on vit ce temps de Dieu-là. Parce que, alors on comprend ce que Paul disait. Quand il disait, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres là, dont on parle. Alors si on s'arrêtait là, on pourrait dire, Paul, il est un peu orgueilleux hein, de se mettre comme ça en avant. Mais pas du tout. Parce qu'il ajoute, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui a travaillé à travers cet apôtre. Paul était de ces hommes qui étaient sensibles à l'Esprit de Dieu et qui savaient même parfois se laisser arrêter dans un projet. Vous savez que c'est ce qu'on a le plus de mal à faire. Quand on a fait des projets, on s'est mobilisé, on a prié pour cela, on a rassemblé des fonds, des hommes, etc., toute une équipe. Et puis maintenant, on y va. Et alors au moment où vous y allez, Dieu vous dit non. Ben, Paul l'a vécu. Dans son deuxième voyage missionnaire, la Bible nous dit que Paul et son équipe, qu'il avait constituée au fur et à mesure qu'il avançait, avec Timothée notamment, le dernier qu'il avait pris dans son équipe, se préparaient maintenant à évangéliser toute l'Asie mineure. Et là, le Saint-Esprit empêcha Paul de prêcher l'évangile. Vous imaginez un missionnaire avec toute son équipe qui ont fait des plans, n'est-ce pas, une stratégie d'évangélisation, et au moment où ils veulent arriver dans le territoire, le Saint-Esprit dit à Paul non. Moi, j'en connais qui n'auraient pas écouté le Saint-Esprit. Hein. Ils auraient quand même voulu aller prêcher dans ces territoires. Mais le problème, c'est que si vous essayez d'ouvrir une porte que Dieu a fermée pour l'instant, et quand je dis Dieu, ce n'est pas forcément de par sa volonté propre, mais c'est parce qu'aussi les événements, les circonstances ne sont pas encore arrivés à leur terme. La situation n'est pas encore mûre. Si vous essayez de faire le travail, et vous allez vous épuiser, vous fatiguer, vous épuiser ceux qui vous entourent, etc. Parce que vous êtes en train d'essayer d'ouvrir une porte que Dieu a fermée pour l'instant. Et la Bible dit que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir, même pas un apôtre comme Paul. Alors Paul a été soumis au Saint-Esprit, ils ont commencé à marcher, à marcher, à marcher. Et comme ça faisait sûrement plusieurs jours qu'ils marchaient, à un moment donné, ils se sont dit quand même, on va essayer là. Et alors qu'ils s'apprêtaient à pénétrer dans ce territoire, à nouveau, le Saint-Esprit dit, non, c'est pas là que je vous veux. Bon, alors Paul a à nouveau marché. Et quand vous regardez la distance qu'ils ont fait depuis les églises qu'ils avaient ouvertes la première fois, et la ville de Troas, ça représente, hein, à pied, une grande distance. Et moi, j'imagine Timothée, par exemple, qui devait se dire au départ, chic, Paul m'a pris avec lui. Je vais vivre des choses extraordinaires. Je vais enfin entendre l'apôtre Paul prêcher l'évangile. Eh bien non, il fallait marcher, avaler du sable. C'est tout ce que Timothée est en train de vivre. Mais c'est un temps de préparation. Et lorsque maintenant ils arrivent à Troas, que là ils sont là où Dieu les veut, au moment où il faut, vous remarquez qu'alors, tout à coup, les choses s'animent, les choses s'éclairent. En une nuit, le projet de Dieu va être amené à la connaissance de cette équipe missionnaire. Paul reçoit une vision, un Macédonien qui dit « Secours-nous !» Paul en parle avec son équipe. Et la Bible nous dit alors « Nous concluâmes que Dieu nous appelait à prêcher l'évangile en Macédoine. » Eh bien oui, c'était le temps de Dieu pour la Macédoine. Celui pour l'Asie allait venir après, à travers un travail que Paul aura fait à Éphèse, d'enseignement. C'est pas lui qui ira ouvrir ces églises d'Asie que vous avez ensuite dans l'Apocalypse. Non, ce sont ceux qui auront écouté l'évangile prêché, qui auront été formés par Paul à Éphèse, qui iront ensuite eux-mêmes ouvrir ces églises dans toute cette région. C'est ainsi que Dieu l'avait prévu et c'est ainsi que les choses se sont faites. Et on voit que l'œuvre de Dieu alors a pu aller de l'avant. Alors ce sont quelques témoignages que je vous laisse pour vous dire simplement que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si vous avez reçu une promesse de Dieu, gardez-la dans votre cœur. Et gardez-la jusqu'au bout, même si, j'allais dire, elle ne s'accomplit pas de votre vivant. Quand vous lisez les héros de la foi dans Hébreux 11, vous voyez qu'il est dit qu'ils les ont obtenus par avance, comme cela, par la foi, mais ils ne les ont pas vus de leur vivant, ces promesses. Mais ils les ont gardées dans leur cœur jusqu'à leur mort. C'est formidable de pouvoir considérer que l'œuvre de Dieu va se faire quand même lorsque nous partirons. Parce que Dieu, lui, est éternel. Nous, nous sommes limités, simplement. Donc, gardez la promesse dans votre cœur. Et s'il est dans le temps de Dieu que vous participiez à cette œuvre, alors, le jour où ça sera mûr, où ça sera vraiment le temps de Dieu, vous ne vous aurez même pas la question à vous poser, mais est-ce que vraiment c'est à moi que Dieu demande de faire ça? Ça sera très clair, ça sera évident. Je prends un autre exemple et je termine pour ne pas prolonger trop. Quand j'étais jeune converti, il y avait le feu qui brûlait en moi pour rendre témoignage. À l'époque, je travaillais au chemin de fer. Et comme vous le savez peut-être, au chemin de fer, on ne parle pas de Dieu. On parle de toute autre chose, mais on ne parle pas de Dieu. Ou alors, quand on en parle, c'est pour se moquer et pour le lapider. Et pourtant, j'avais dans ce cœur, et je disais au Seigneur dans ma prière matinale, « Seigneur, je veux être un témoin dans le milieu où je suis là, dans ces bureaux où je travaille. » J'étais chef de district à l'époque. Et un matin, après avoir prié déjà depuis quelque temps, un matin, alors que je lisais la Bible, la pensée vient s'imprimer à mon cœur. Aujourd'hui, tu vas pouvoir témoigner à un de tes collègues. Alors j'étais excité, et puis en même temps un peu anxieux, me dire mais comment ça va se faire? Ne t'en fais pas, tu auras une occasion. Ok. Et effectivement, dans la matinée, un de mes collègues est venu dans mon bureau pour me demander une bricole. Et puis tout à coup, la conversation a pu se brancher sur sa vie personnelle, en quelque sorte. Il avait un souci, un problème. Il m'en a parlé. Et là, ça a été vraiment la porte ouverte. Le Seigneur me disait, tu vois, tu te demandais comment tu allais faire, c'est le moment. Et là, j'ai pu lui rendre témoignage et lui parler de Jésus et du plan de Dieu pour sa vie. Donc, il y a vraiment, dans ce domaine, à expérimenter cette patience, cette persévérance. J'ai aussi souvent remarqué que quand on persévère avec le Seigneur, qu'on croit à ses promesses et que l'on continue de faire ce que Dieu attend de nous, eh bien, c'est la meilleure façon de vous trouver au moment pile où vous devez être pour l'œuvre que Dieu a préparée pour vous. Mais il faut être vraiment dans le timing de Dieu. Un dernier chose qui m'impressionne, c'est Philippe. Vous savez, Philippe était simplement un diacre à Jérusalem. Il fuit par la persécution, il arrive en Samarie, et là, il commence à parler de Jésus, des miracles se produisent. Une église naît, là, baptisée du Saint-Esprit grâce aux apôtres qui viennent renforcer le travail de Philippe. Et puis, une nuit, Philippe a la visite d'un ange qui lui dit « Quitte la Samarie et va maintenant dans le chemin qui est désert. » Et là, cet homme qui était devenu donc un évangéliste, il laisse le travail qui est là, n'est-ce pas, et il s'en va dans ce chemin désert. Et arrivé donc dans ce chemin, d'un seul coup, il voit un char au loin, avec la poussière, vous voyez, parce que c'était un homme important qui revenait de Jérusalem et qui rentrait dans son pays. Et il y avait donc toute sa garde avec lui. Et là, quand il voit ce char dans le chemin, le Saint-Esprit lui dit « Approche-toi de ce char, c'est pour cela que je t'ai amené ici. » Mais vous vous rendez compte que s'il avait traîné en chemin, le char serait déjà passé depuis un moment et il n'aurait pas. Et voyez un peu le timing de Dieu. Faire coïncider un homme à pied avec un char qui vient de Jérusalem pour que eh bien, Philippe puisse évangéliser cet Éthiopien, personnage important, et l'amener jusqu'au baptême. Et là, ayant baptisé cet homme, l'Abbé nous dit, ça nous paraît tellement simple, mais réfléchissez un peu. Le Saint-Esprit l'enleva et le transporta dans une ville, et de cette ville, il évangélisa jusqu'à Césarée. Je me suis toujours dit, mais comment ça s'est fait ça? Le Saint-Esprit le transporta. Est-ce qu'on accepterait, nous, que le Saint-Esprit nous transporte, nous enlève dans les airs, et puis hop, nous amène là-bas? À l'époque, il n'y avait pas d'avion encore. Mais lui, il a vécu déjà ce qu'un oiseau peut vivre par la puissance du Saint-Esprit. Même si ça vous paraît fou, même si ça vous paraît impossible, ce que Dieu vous dit, mais si Dieu vous le dit vraiment, eh bien, croyez-le tout simplement. Continuez de faire ce que Dieu vous demande et vous serez au moment voulu dans les conditions pour que vous puissiez vivre ce miracle que Dieu fera dans votre vie ou à travers votre vie. Voilà quelques pensées que je voulais laisser à votre cœur. Nous allons prier.